poule aux vanilles.
Je pense.
J'aime bien la framboise.
Ouais, je pense que je vais prendre deux boules vanille.
Deux boules vanille.
Je sais pas. Deux boules vanille.
Bonjour à toutes et à tous, Yann avec vous sur Canal B pour une nouvelle émission de Deux Boules Vanille, votre rendez-vous estival sur Canal B, une émission qui est tour à tour présentée par Iris, Morgane, Louise, Lucie, Quentin, Antoine, quelques autres et moi-même, et qui vous permettra aujourd'hui de poursuivre notre série sur les métiers invisibles du spectacle vivant. Aujourd'hui, Soisig Le Bay rencontre Pierre-Yves Jameau, machiniste, technicien du spectacle au TNB. La fin de l'émission nous proposera un morceau de choix, rediffusion du morceau de choix numéro 18. C'est Michael qui nous parlera d'un de ses titres préférés de tous les temps, un morceau de Faust, dans cette chronique proposée par Ronan Chaplin. Et puis moi, je vous emmène du côté de Carhaix. Pas au Vieille Charrue, c'est passé, mais au Motoculteur qui se déroulera pour sa 15e édition du 15 au 18 août prochain. Bonne émission. Motoculteur, c'est un festival qu'on connaît bien dans la région. Après ses débuts du côté de Vannes, il se fixe depuis 2-3 ans maintenant à Carhaix sur le site des Vieilles Charrues, mais pour proposer une programmation riche en black metal, death metal, heavy metal et quelques autres un peu moins metal d'ailleurs des groupes, même si je peux vous annoncer la présence du Bernard Minet Metal Band, oui. Bernard Minet, démusclé. Parmi les propositions un peu étonnantes dans la programmation du Motoculteur cette année du 15 au 18 août, je vois la présence de Didier Super, par exemple, qui va sans doute y aller à fond dans la provoque et risquer peut-être la colère des métalleux et métalleuses de tout poil. Les Shérifs aussi seront présents là pour une rasade de punk du sud et en français. Parmi les noms les plus attendus, sans doute, Alan Stivell ne fait pas partie de ces noms-là, sans doute. Vous attendrez peut-être plus Meshuga, vous les fans de musique extrême, ou bien Black Bile, par exemple, ou Hippotractor. On va écouter nous deux exemples de ce que n'est pas tout à fait le Motoculteur, finalement. J'ai décidé de vous faire entendre les deux premiers artistes qui joueront lors du début du festival le 15 août. Et ça sera sur la Dave Mustage, donc, que ça jouera. Très bon les noms des scènes au Motoculteur, puisqu'on retrouve aussi la Massey Ferguson et puis le Suppositor Stage, sans oublier la Bruce Dickinson en honneur du leader d'Iron Maiden. Et bien sûr, la Dave Mustage, ça commence très 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 calme avec Alan Stivell par exemple et sa harpe. Alors, est-ce qu'ils l'attacheront à un arbre avant la fin du festival? Ça c'est pas dit, mais bon, pourquoi pas. Ils joueront en tout cas ce que je vais citer maintenant, les The Wolf, les Hollandais de The Wolf, en ouverture du 15 août. Ce sera dès 15h30 que vous retrouverez cette formation qui aime bien les envolées Southern Rock, mélangeant soul, blues, rock'n'roll. Vous allez pouvoir entendre un tour de force, ce morceau que je vous propose, le titre Rosita, enregistré dans les conditions live au studio Kerouax en Bretagne. On écoute donc The Wolf qui ouvre le Motoculteur Festival cette année. Retrouvez toute la programmation sur motoculteur-festival.com et sachez que la Ferrarock vous proposera un plateau en direct pendant le week-end du 15 au 18 août. On écoute The Wolf.
Take you down to Mexico. And El Chirito does a place I know I'll ride.
Rita, down in El Chirito.
I know Rosita from another town. The same Rita was a friend of mine, but sometimes I feel in the hills. I feel in the moon. Gonna take you on a magic ride. I'm in the garden, baby, right outside.
Throwing rocks at your window. Monday to domingo.
The door had opened, but to my surprise, she hadn't been there in a thousand hours. Oh, wow. I headed to the woods, feeling in the
I will stay asleep forever. I shall sacrifice my flesh and bones. But before I leave this early life, there's one thing I need to know. Can you even touch me? Can you, my Benita? Can you even touch me? Can you, Mama Cita? Can you even touch me? Can you, my Benita? Can you even touch me? Can you, my Rosita? You know about that Super B I got? We could drive it to the parking lot. Heartbeat rumble to the backseat shuffle. Tell your daddy cause he gonna say, better get a job and stay away from my daughter. You gotta find another. An old time friend, and it's playing in your mind, and it goes like this.
Yeah. sometimes I just get so cold and lonesome I wanna cry.
Tour de force carrément que ce Rosita par les Hollandais de Wolf. J'espère pour vous, si vous êtes à l'ouverture du festival Motocultor le 15 août à Carré dans le Finistère, qu'ils seront dans la formation complète avec les cuivres, les chœurs et tout ce qui fait la classe hein, de ce morceau Rosita enregistré en live, je vous rappelle, au studio Kerouax en Bretagne. On va poursuivre avec un autre groupe qui fait figure un petit peu d'alien hein, j'imagine, pour les habitués du Motocultor, ceux qui sont venus pour Venom, Ink, pour Magma ou pour peut-être Lionheart ou Necolite Orchestra, seront surpris de découvrir les Anglais post-punk de Squid qui font la deuxième position sur Dave Mustaine le 15 août au Festival Motocultor. We'll be right back. À l'instant, sans doute pas des groupes marquants pour les fans de métal, mais un groupe qui, dans son post-punk assez flamboyant, eh bien, sera présent lors de la journée d'ouverture du Motoculture Festival à Carhaix. Ce sera le 15 août. Toutes les infos sur motoculture-festival.com. Et je vous rappelle que, comme pour la Route du Rock, eh bien, le festival sera doté d'un plateau radio en direct proposé par la Ferrarock que vous pourrez entendre sur vos radios préférées. Nous on poursuit l'émission maintenant et bien avec un troisième épisode de la série Les métiers invisibles du spectacle vivant. Qu'ils et elles soient en charge des costumes, de la lumière, des décors ou encore de la régie générale, on ne connaît pas leur nom, on ne les voit jamais sur le plateau d'un théâtre quand le rideau est levé. Mais pourtant, au Théâtre National de Bretagne, à Rennes, au Festival d'Avignon ou ailleurs, sans leur travail, rien ne pourrait avoir lieu. Certainement pas de manière aussi riche, subtile et harmonieuse. Cet été dans De Boules Vanille, Soisy Glebaille rencontre des hommes et des femmes qui exercent des métiers invisibles du spectacle vivant et qui s'expriment sur leur carrière, ses évolutions, nous parlent aussi de leur bonheur ou de souvenirs moins joyeux. Dans ce troisième épisode de la série Les métiers invisibles du spectacle vivant, nous rencontrons Pierre-Yves Jameau, machiniste, technicien du spectacle au TNB.
Pierre-Yves Jameau, bonjour.
Bonjour, Soisy.
On se tutoie parce qu'on se connaît depuis fort longtemps. J'ai voulu te rencontrer là parce que dans le cadre des métiers invisibles du spectacle vivant, tu me sembles être la bonne personne. Je voudrais que tu nous dises qui tu es, qu'as-tu fait comme études et ce que tu fais d'abord à l'Opéra et au TNB, puis maintenant plus qu'au TNB. Qu'as-tu fait comme formation ?
J'ai fait les Beaux-Arts et puis de fil en aiguille, après des accidents divers et variés, je suis entré par hasard dans un théâtre et puis j'y suis resté 25 ans intermittent et puis là quelques années en CDI pour finir ma carrière.
Tu es machiniste, monteur de décor.
Souvent, quand on me demande ce que je fais maintenant, je dis que je suis bricoleur en chef, parce que bon, moi, je suis chef d'atelier en ce moment. Et c'est une boutade, mais je suis avant tout bricoleur, c'est-à-dire un bon machiniste doit savoir tout faire de ses mains, tout réparer et fabriquer aussi quelque chose qui n'existe pas à partir de... partir de rien, partir d'un dessin et fabriquer un objet selon la demande d'un metteur en scène ou d'un régisseur. On est vraiment des super bricoleurs et après, effectivement, il y a plusieurs familles. Il y a aussi des machinistes qui ne savent pas bricoler, il en faut aussi. Quand on monte un décor On n'est pas obligé d'être le meilleur bricoleur du monde, mais il faut que dans une équipe de machinaux, il faut toujours qu'il y ait au moins 10 ou 20% de personnes capables de fabriquer des choses, quoi. Soit en bois, soit en acier, les deux idéalement, mais c'est vraiment le cœur du métier.
Tu parles du décor. Quel lien as-tu avec un metteur en scène ?
Ça dépend. Dans les grosses maisons, c'est très hiérarchisé. Il y a une organisation pyramidale, comme dans beaucoup d'entreprises. Le metteur en scène fait part de ses désirs au régisseur général, qui après en parle au régisseur plateau, et le régisseur à plateau, après de... Non, mais ça, c'est vraiment les grosses machines, c'est comme ça. Après, le régisseur plateau vient voir le machinot ou le constructeur pour lui demander de faire telle ou telle action. Mais dans les petits théâtres ou dans les petites compagnies, évidemment, c'est beaucoup plus direct. Le metteur en scène part directement au technicien. Mais ou dans la tournée ou dans la création, le metteur en scène a un rapport plus proche avec les techniciens, avec ses techniciens qui sont à son service le temps de sa création ou le temps de sa tournée.
Est-ce que ça t'arrive de dire ça tient pas la route et de proposer autre chose ?
Oui. Moi personnellement, j'ai de plus en plus d'autonomie. Parce qu'une fois que les gens vous connaissent, ils savent que... Mais c'est vrai, parfois, il y a des gens, ils m'ont considéré juste comme... Par exemple, plusieurs fois, on m'a dit, Pierre-Yves, toi, t'es soudeur, tu sais souder. Mais non, je ne suis pas soudeur, moi, je suis...
Et tu sais souder.
Oui, évidemment, mais c'est 10% du... Avant tout, j'imagine, je conçois un objet, et puis après, je le fabrique, et on voit si ça marche ou pas, mais... Au poste que j'ai, en tout cas, en ce moment, c'est ça. Mais parfois, on est pris dans une organisation, dans une grosse machine, on va être juste exécutant. C'est-à-dire, on a un plan et on le réalise sans aucune marge de manœuvre, etc. Mais ça, parfois, il faut le faire. Par exemple, pour construire un gros décor, évidemment, c'est un peu comme à l'usine. Chacun a sa pièce à fabriquer et il y a un plan, etc. Mais dès qu'on est au plateau... il y a toujours quelque chose adapté. Même quand on reçoit un décor neuf, on a toujours, même si nous ne l'avons pas fabriqué, on doit forcément l'adapter parce que déjà, pendant que le décor a été fabriqué, le scénographe qui imagine le décor, suite à discussion avec le metteur en scène, parfois, une fois le décor imaginé et construit, on le monte au plateau. Et le metteur en scène et les comédiens d'ailleurs réalisent que telle chose ne fonctionne pas.
La circulation passe pas ou...
Voilà, une mauvaise circulation, ou alors il manque une rambarde ici pour pas que les gens se cassent la figure, ou alors il y a un truc qui est raté. Il y a toujours une adaptation. Je pense que ça n'arrive jamais qu'un gros décor soit parfait du premier coup. Même parfois en tournée, on a des petites adaptations parce que les théâtres ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a de la casse aussi dans une tournée, même si on emballe au mieux le décor, on conditionne au mieux les accessoires dans des fly, dans des caisses qu'on fabrique. Il y a quand même des casses, il faut réparer. Ça nous est arrivé au TNB la saison dernière. Un décor a été mal chargé. Quand le camion est arrivé, il y avait plusieurs éléments cassés. Et là, il a fallu les réparer en urgence. Et ce qu'on a fait, on s'en est assez bien sorti. Mais il y a eu un petit moment de quand le régisseur de tournée a ouvert le camion, qu'il a découvert une partie du décor cassé, il y a eu un petit moment de panique. Dans ces cas-là, bah, c'est tout de suite direction l'atelier. On commande vite du bois. Ou si par chance, on a ce qu'il faut en stock pour faire, c'est encore mieux. Il faut aller super vite.
Je vais au théâtre un petit peu. J'ai l'impression que les décors disparaissent de plus en plus, qu'ils sont de plus en plus minimalistes. C'est quelque chose qui convient ou t'aimes mieux les grands décors exubérants, ou bien est-ce qu'il faut faire encore plus attention quand il y en a le moins possible ?
D'abord, je suis d'accord avec toi. Effectivement, on constate avec les collègues qu'il y a de moins en moins de gros décors. Il y en a toujours, mais moins souvent qu'avant. Essentiellement parce qu'il y a moins d'argent, je pense. Peut-être qu'aussi... trop de décors, tout le décor. Peut-être qu'au bout d'un moment, les gens ont envie effectivement de quelque chose de plus sobre. Mais je pense que c'est quand même beaucoup. Je pense que les décors sont quand même appréciés. Mais même un décor minimaliste, il peut coûter cher à faire. Il y a certains décors qui paraissent minimalistes, mais quand tu finis par connaître le prix qu'il a coûté, tu dis waouh. Il y a moins de décors. Après, moi, j'aime bien faire un tout petit décor. Par exemple, s'il y a un tout petit décor à faire, justement, on peut éventuellement, dans certains cas, se passer de l'étape du scénographe et c'est directement le constructeur qui... S'il y a juste une table et deux chaises à fabriquer, du coup, moi, j'aime bien. Parce que du coup, je cherche l'idée...
Je suis allée voir la saison dernière la pièce de théâtre de Christophe Honoré, qui avait l'air relativement sobre, mais où il y avait quand même plein de dispositifs différents, et notamment de la vidéo. Est-ce que pour vous, c'est plus compliqué d'installer ça? Et qui est-ce qui joue avec le timing de lancer la vidéo au bon moment, de lancer le son de...
Ça, c'est les régisseurs lumière, son et vidéo. Ils sont en général en salle, tout en haut, derrière le public. Il faut qu'ils soient là parce que ils envoient les effets au fur et à mesure. Même si tout est automatisé, il faut quand même quelqu'un pour appuyer sur le bouton parce que les comédiens vont pas forcément aller à la même vitesse tous les soirs, ou alors ils vont zapper une partie du texte. Donc il y a toujours des régisseurs derrière les spectateurs qui envoient les effets petit à petit. En général, il y a sur les gros spectacles, il y a trois régisseurs, un pour le plateau, un pour le son, un pour la lumière, parfois un pour la vidéo, pour les très grosses tournées. Alors, pour les tout petits décors plus simples, parfois c'est la même personne qui fait tout. Genre les petites compagnies, qui ont peu de moyens, peu de personnel, c'est peut-être la même personne qui fait tout. Mais il faut toujours de l'humain, même si c'est très automatisé, et il faut toujours de l'humain pour envoyer les faits.
Pour vidéo grave. Pour veiller au grain.
Il y a toujours quelqu'un en cabine derrière les spectateurs pour envoyer les vidéos, contrôler le son, etc.
Tu parles de tournée, c'est vrai que quasiment toutes les pièces qui sont au CNB, elles font partie d'une tournée au moins nationale, sinon internationale. Le décor, il arrive combien de temps avant? Vous avez combien de temps pour monter?
Ça dépend, c'est beaucoup une... Là c'est... on va parler d'histoire de gros sous, parce que pour des raisons économiques, la tendance est de demander de plus en plus un temps court entre l'arrivée du camion et le lever du rideau. Pour des raisons évidentes de coûts de main d'œuvre et pour que le spectacle aussi soit moins cher à vendre, donc pour faire baisser le prix du spectacle, etc. Donc certains des décors arrivent deux jours avant, parfois c'est J-1 comme on dit dans le métier, J-1, J-2, et ben là il faut pas traîner pour tout caler, quoi.
T'aimes bien cette excitation-là, ou bien t'aimerais mieux que ça soit plus tranquille?
Moi, j'ai connu cette excitation-là jusqu'à présent. Maintenant, j'ai un peu changé de poste, mais quand je travaillais sur les montages et les exploitations, oui, cette adrénaline, c'est pas désagréable. Après, c'est très fatigant. Et ça fatigue les gens. C'est des métiers qui sont enthousiasmants, mais c'est très fatigant parce que t'as une pression énorme. Il faut absolument monter ton décor. Tu as un temps donné pour le faire. Donc moi, c'est être régisseur de tournée, par exemple, c'est un boulot que je me suis jamais senti capable de faire. C'est trop stressant. J'aurais pas supporté ça. Et mes camarades qui le font, je leur tire mon chapeau parce que c'est une responsabilité énorme. Tu débarques dans un théâtre que tu connais pas forcément. Alors les gens qui tournent beaucoup, ils finissent par connaître plusieurs théâtres en France et à savoir, ah oui, dans celui-là, ça se passe bien. Mais n'empêche, tu arrives dans un lieu que tu connais pas. Tu sais pas si les techniciens qui vont t'accueillir vont être super ou pas. Enfin, sur une tournée, dans les théâtres en général, il y a les techniciens qui accueillent, c'est-à-dire ceux qui font partie du théâtre, et ceux qui tournent. Et les deux équipes doivent travailler ensemble. Parce qu'évidemment, un spectacle un peu conséquent ne peut pas tourner avec tous ses techniciens. Donc il y a forcément le théâtre qui a acheté le spectacle et qui l'accueille, fournit du personnel pour le montage et l'exploitation, les renforts pour l'exploitation, même si évidemment les techniciens de tournée qui tournent avec la tournée, eux font l'exploitation, évidemment, mais parfois il faut du renfort sur l'exploitation, et de toute façon au montage et au démontage, évidemment, font un gros renfort.
Est-ce que c'est très différent à l'opéra et au théâtre ?
Ouais, c'est très différent parce que, en fait, les opéras, ça tourne beaucoup moins que le théâtre. Parce que, il y a des petites formes, des petits opéras légers avec petit orchestre. Souvent, les orchestres baroques sont beaucoup moins nombreux. Donc, il y a quand même quelques opéras qui tournent, mais généralement, c'est des petites formes, c'est des petites pièces et assez anciennes. Puisque plus les opéras sont anciens et moins il y avait de musiciens à jouer dessus, mais un opéra plus récent où il y a 40 ou 45 musiciens de musique classique dans la fosse d'orchestre, c'est très compliqué à tourner puisque il y a les techniciens, il y a le décor. Sur un opéra, si on tient compte des artistes, des chanteurs, les solistes, les choristes, les musiciens, parfois on est à 200 personnes, hein, facilement. Ah oui, c'est donc c'est intournable. Donc en général, un opéra, c'est recréé dans une ville, avec parfois avec des artistes différents.
Mais au niveau de toi, du métier de machiniste et de monteur de décor,
c'est pas le même. La temporalité n'est pas la même dans l'opéra, puisqu'on le recrée à chaque fois. Donc quand on accueille un opéra dans un opéra, ça va prendre 2 ou 3 semaines. Alors qu'au théâtre, le tempo est beaucoup plus rapide. Souvent, comme je disais tout à l'heure, un décor arrive et puis le surlendemain, ça joue. Alors que l'opéra, il faut recréer à chaque fois. Donc il y a des répètes. C'est pas le même tempo.
C'est plus confortable ?
C'est plus confortable, ouais. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a des gens que ça ennuie. Il y a des techniciens... Une fois que le décor est monté, ils sont en coulisses, ils attendent le petit moment où on va avoir besoin d'eux pour changer le décor, par exemple, ou pour déplacer un accessoire. Il y a certaines personnes qui supportent mal ça, qui s'ennuient. Qui... c'est des métiers où il faut parfois aller très vite et forcer très dur, pas longtemps, et puis après on attend. Alors je parle une fois en exploitation, bien sûr, le montage c'est toujours intense, c'est épuisant, mais l'exploitation, parfois on... Sur un opéra de 3 heures ou une pièce de théâtre de 3 heures, on va avoir besoin de nous juste un quart d'heure.
Et il faut être là tout le temps.
Il y a aussi les techniciens. Parfois, on bouge les éléments de décor pendant le jeu. Pendant que les...
Ouais, ce sont les hommes en t-shirt noir sur la scène.
Voilà.
Qui essayent de ne pas être...
Parfois, on nous voit.
Ouais. Bah oui, on nous voit.
Mais souvent, on ne nous voit pas. Souvent, on est en coulisses. Moi, j'ai longtemps été ceintrier. Ceintrier, c'est la personne qui fait voler les tissus ou les écrans, même parfois les lumières, on peut les bouger pendant... Là, on est dans les hauteurs de la cage de scène et on joue, effectivement, nous aussi, pendant le spectacle, et on doit apprendre notre rôle, un peu comme les comédiens, on doit répéter nos manœuvres. Et souvent, on doit se bagarrer avec les metteurs en scène pour leur dire... S'il vous plaît, laissez-nous un peu de temps pour répéter nos manœuvres, parce que si on n'a pas le temps de répéter une manœuvre, on peut la rater, et puis là, c'est la honte, et puis la personne n'est content.
Ouais.
Mais quand on a très peu de temps pour installer un décor, eh bien, souvent, on n'a pas bien le temps de répéter les manœuvres, et parfois, c'est dommageable. Parfois, à force de vouloir
faire vite,
quelquefois, on rate des manœuvres, et voilà, c'est dommage.
Est-ce que tu as un souvenir d'une catastrophe ?
J'ai connu, enfin c'est une catastrophe collective. Dans ma carrière... C'était au Théâtre National de Bretagne. Il y a eu un échec. Il y a une fois, une création qu'on n'a pas réussi à faire. C'est arrivé une fois. C'était une création de Romeo Castellucci.
Ouais.
C'était il y a 10 ou 20 ans. Je ne sais plus. Enfin, c'est vieux déjà.
Ouais.
Ça s'appelait le voile noir du pasteur. Et donc, c'était... je pense que c'était un spectacle composé de 3 spectacles. Et il y en a un des 3... qu'on n'a jamais réussi à faire.
Et pourquoi ?
Le décor mal fabriqué, je ne sais pas, on avait l'impression qu'il y avait une malédiction, on essayait de faire les manœuvres, je me souviens, il y avait une énorme locomotive qu'on poussait, et c'était jamais bien, on a, parce que je pense que le décor n'était pas super bien conçu, on n'a jamais réussi à faire la manœuvre comme le metteur en scène voulait. On a abandonné et finalement le spectacle a eu lieu, mais sans ce tableau-là, qui était quand même un tiers du spectacle.
Et Romeo Castellucci, là, il s'est roulé par terre.
Ah,
il
oui, ça, il était pas content du tout. Mais, mais c'est le seul truc. Et puis à la fin, je me rappelle, comme on n'y arrivait pas, on y passait des heures et des heures. On était tous épuisés. Plus ça allait.
Plus ça allait,
et pire c'était. Et puis après, on commençait à être tous épuisés, on a frôlé des accidents et tout.
Qui a décidé de ne pas faire le troisième
Je pense que c'est le directeur du théâtre de l'époque, mais certainement
en accord avec
le metteur en scène. Ouais. Je pense qu'ils ont dû se réunir, cellule de crise, et c'est la seule fois où c'est arrivé.
Je voulais quand même dire que Pierre-Yves Jameau, tu es aussi artiste de ton côté. Et donc c'est aussi pendant longtemps que tu as été intermittent parce que tu voulais accorder du temps à ta création et tu es créateur d'objets. Tu te définis comme sculpteur.
Là encore, bricoleur, mais bricoleur-sculpteur, on va dire. Et c'est vrai que longtemps, j'ai fait le choix d'être intermittent pour garder du temps pour pouvoir faire mes propres créations que j'ai un petit peu mis entre parenthèses pour l'instant. Mais voilà, je serai bientôt à la retraite et je vais reprendre à fond ma création.
Ta propre création.
Merci à Pierre-Yves Jameau, machiniste, technicien du spectacle au TNB à Rennes. Nous l'entendions dans le troisième épisode de la série « Les métiers invisibles du spectacle vivant » proposé par Soisy Global tout cet été dans l'émission « De Boulevanille » sur Canal B. « De Boulevanille » qui se poursuit avec un morceau de choix, le 18e du nom dans cette chronique proposée par Ronan Chaplin. Rediffusion de ce morceau de choix du 2 février 2024. C'est Michael qui nous parle d'un titre de Faust qui l'a fait se renverser.
Morceau de
bravoure.
Cracher le morceau. Recoller les morceaux.
Les morceaux, le morceau.
Manger le morceau.
Morceau.
Le morceau.
Emporter le morceau.
Morceau.
Choisi.
Morceau choisi.
Morceau de choix.
De choix.
De choix.
Morceau de choix.
Listen to the Fish. Et c'est un morceau de Faust.
Ben c'est ça, on est minot, on a 17-18 ans, les soirées c'est toujours la bataille, la playlist, de toute façon, qui va passer son entre deux verres, tu vois. Donc c'est toujours la bataille, et puis toujours les plus vieux, voilà, les plus vieux c'est eux qui amènent la matière, c'est eux qui ont le son nouveau, quoi. Parce que t'as pas, le blé, parce que quand t'as 17-18 ans, t'as moins de blé que ceux qui en ont 20-25, quoi. Et donc voilà, et c'était le jour où il y en a un qui a mis ça, mais ça m'a retourné du coup. Retourné parce que voilà, on retrouve un son brut, quoi. Un son, voilà, comme s'ils avaient touché l'essentiel de la musique, en tout cas dans leur partie. Ce qui m'accroche, en tout cas dans c'est dans l'atmosphère, puis ce morceau, donc il y a le côté brut spontané. Ouais, ça c'est un peu ça, je pense, le côté spontané dans cette musique. Thank you. Mais le ressenti, ouais, il prend un peu au trip parce que c'est, il y a de la basse, ça tourne tout le temps, ça t'emmène en fait, le truc te lâche pas, et c'est boucle rythmique qui s'avance avec une batterie bien lofi mais bien lourde, ça te ramène un peu au sol comme ça, et ça prend toujours, ça me prendra toujours les tripes, le bide, et ça fout un peu le, ouais, ça me fait des frissons à chaque fois que j'entends ça, quoi. Et toujours j'ai l'impression de pénétrer dans un autre monde, quoi, que ah, ça me nourrit bien, ouais. Des nuances de gris. De gris parce que le son me fait penser aussi au monde industriel, quoi. Mais ce qu'on entend dedans au milieu de... On pourra pas définir donc les instruments, on n'est pas clair dans l'oreille, que ce soit des guitares préparées ou du synthé, on sait pas trop, peut-être du modulaire, on sait pas. Et du coup, dans ce mélange d'harmonie, de son, de matière comme ça, parce que j'ai envie de parler de matière, derrière c'est pas... voilà, c'est pas palpable dans le terme de musicalité, quoi. On peut pas dire c'est un do dièse, bim bim, quoi. Et du coup, on va entendre, à la croisée de ces fréquences et de ces sons, on va s'inventer, en fait. Chacun va l'entendre différemment, on va s'inventer des mélodies fantômes, les ghost melodies, un peu. Et je trouve que ça, sans le vouloir, ils ont contribué à une espèce d'harmonie que chacun, en plus, entend différemment suivant les oreilles. J'en suis persuadé, quoi. Parce qu'on perçoit des fréquences différentes suivant comment nos oreilles sont abîmées ou pas, ou comment elles sont éclairées ou pas, en fait. La lumière à toutes les oreilles. Yeah.
C'était le groupe Faust à l'instant sur Canal B avec le titre Listen to the Fish dans la rediffusion du morceau de choix numéro 18 conçu et réalisé par Ronan Chaplin et diffusé pour la première fois dans l'émission Crème de la Crème le 2 février 2024. De Boulevanie revient demain, diffusion du lundi au vendredi à 17h, rediffusion du mardi au samedi matin à 8h. Bon été sur Canal B.